Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Si l'éducation sentimentale était une musique, ce serait sans doute la redite d'Eric Satie. Cette lente répétition de notes qui tournent en rond et qui suivent une mélodie comme au hasard des détours du piano. La dramatisation arrive par à-coups et retombe vite. La mélodie semble plus spectatrice qu'actrice. L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert est-il le récit d'un héros ou d'un anti-héros? Voici son personnage principal, Frédéric Moreau, qui n'attend rien et que rien n'attend dès la première page du roman.
Le 15 septembre 1840, vers 6h du matin, la ville de Montereau, près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine, des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation, les matelots ne répondaient à personne. On se heurtait, les colis montaient entre les deux tambours, et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui, s'échappant par des plaques de tôle, enveloppait tout d'une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l'avant, tintait sans discontinuer. Enfin, le navire partit. Et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d'usines, filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule. Un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail, immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms. Puis il embrassa dans un dernier coup d'œil l'île Saint-Louis, la cité, Notre-Dame. Et bientôt Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Monsieur Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, se retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait languir pendant 2 mois avant d'aller faire son droit. Sa mère, avec la somme indispensable, l'avait envoyé au Havre voir un oncle dont elle espérait pour lui l'héritage. Il en était revenu la veille seulement, et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale en regagnant sa province par la route la plus longue.
Bonjour Pierre-Marc de Biasi.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes l'auteur de Gustave Flaubert, Une manière spéciale de vivre, qu'on trouve notamment au livre de poche paru en 2011. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes lecteur, entre autres, de l'éducation sentimentale, évidemment, puisque vous connaissez Flaubert comme personne. La première page du roman laisse penser que quelque chose va arriver, mais au bout des 20 et quelques lignes qu'on a entendues, on voit bien que tout retombe. C'est un faux début.
Oui, en même temps, quelque chose va quand même arriver, dans pas très longtemps. Mais c'est un début intéressant parce qu'il est extraordinairement cinématographique, il est totalement visuel, il est dans le son, dans l'image, et dans une présentation de personnage un peu atypique. Hein. Ça ressemble à du Balzac, mais c'est évidemment un petit peu le contraire de Balzac.
Pourquoi ?
Ça ressemble à du Balzac parce que on a une date, on a un lieu, on a un contexte matériel, description précise du bateau, etc. Mais si vous regardez bien, il y a du brouillard, il y a des vapeurs, tout ça est pris aussi dans une sorte de rêve, et on a affaire à un jeune homme qui sur la question du héros, c'est typique, quoi, qui est à la fois le jeune homme typique, presque stéréotypé, qui a 18 ans et devant qui la vie s'ouvre, hein, et que veut-il être? Il a un album sous le bras. Il a envie d'être artiste, c'est clair. Il veut dessiner, il veut pouvoir montrer, en tout cas, qu'il dessine. Et en même temps, c'est un roublard. C'est-à-dire qu'il, par rapport à la destinée, vous avez bien vu le dernier verbe de l'histoire, et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale en regagnant sa province par la route la plus longue. Il pouvait prendre le train, hein, pour aller à Nogent. Il prend le bateau, parce que le bateau, c'est plus romantique. C'est le début d'une aventure, déjà, le bateau. Mais l'aventure, au fond, c'est une compensation. Il se dédommage de quelque chose. Hein. Il n'a pas le droit de rester plus longtemps que ça à Paris. Sa mère le rappelle. Il va passer 2 mois à Nogent, il va se barber. Hein. Alors, il se dédommage. Il y a tout de suite, dans les premières lignes de ce récit, une sorte de situation comptable. Il est en train de calculer. Et dans tous les moments les plus héroïques du récit, il y a toujours cette double dimension, à la fois le rêve romantique et à la fois la comptabilité du désir, de ses rétributions, etc.
Si bien que Frédéric Moreau est ce personnage qui semble ne jamais coïncider avec lui-même. C'est très particulier pour le lecteur.
Oui, bah il est comme nous, quoi.
Vous pensez que c'est un personnage très réaliste ?
Bah, je pense qu'en tout cas, la notion de réalité change et que Flaubert cherche à être attentif à ce qui est justement un peu flou, un peu trouble dans l'identité.
Ouais. En ce cas, nous sommes à l'opposé de l'héroïsme. Si on entend par héroïsme, celui qui sait accomplir des actions exceptionnelles, voire extraordinaires, et qui agit. Frédéric Moreau est celui qui n'agit pas.
Dans le réel historique, qui agit ? Voilà la question.
Bah, il y a des amis qui prennent les armes, qui se font tuer au combat.
Oui, oui, mais lui, non. Pas forcément à bon escient. Alors si on prend toute l'histoire de 48 qui va se dérouler sous nos yeux dans l'éducation, c'est pas complètement vrai. Donc, je vous rappelle quand même qu'il il rencontre du Sardier, il est dans une manif. Il est dans la première manif du récit, au quartier latin. Il va sauver du poste de police. Il va arracher aux flics le personnage du Sardier, qu'il ne connaît pas, hein, qui est un jeune ouvrier qui vient de se faire molester par la police. Il comme bourgeois, il entre dans le commissariat et il l'arrache aux mains des policiers en disant qu'il le connaît, que c'est un copain, etc. Non, il agit là. Il agit. Il est courageux, Frédéric. Il est courageux. Simplement, le jour où les premières barricades vont se monter, en fait, lui, son problème, c'est qu'il a rendez-vous avec son amour. Alors, il attend devant chez Madame Arnoux. Elle va pas venir parce qu'il y aura eu un événement qui l'empêchera, mais il passera son temps à faire les pas dans un sens et dans un autre devant chez Marie, parce que c'est plus important que la révolution, c'est tout.
C'est un type d'action... Peut-être courageux, c'est en tout cas le terme que vous avez employé, Pierre-Marc de Biasi. Sans doute pas héroïque, on a toute l'heure pour en discuter, peut-être en disputer. Flaubert, au moment d'écrire son roman, écrit ceci, il dit « Je veux faire l'histoire morale des hommes de ma génération. Sentimentale serait plus vrai, c'est un livre d'amour, de passion, mais de passion telle qu'elle peut exister maintenant, c'est-à-dire inactive. » Il insiste quand même sur la dimension d'inactivité de
Absolument.
Ces personnages.
Oui, oui, non, mais vous avez complètement raison. Flaubert règle ses comptes avec son passé hein, dans l'éducation. C'est son histoire quand même. Je vous rappelle que le premier scénario en quelques lignes du récit, c'était Monsieur Schlesinger, Madame Schlesinger, moi. Donc c'est, voilà, on est dans un retour sur soi qui est la jeunesse de Flaubert, c'est-à-dire en fait le dernier moment du romantisme puissant d'avant 48 quoi. Et toute la question du roman, c'est de se demander comment on a pu en arriver à juin 48. C'est ça la véritable question.
Donc rappelez-nous juin 48, ce qui se passe.
Juin 48, c'est la seconde révolution. Au fond, la restauration Louis-Philippe Ard avec Louis-Philippe, qui était une restauration bourgeoise ou totalement axée sur les affaires, l'entreprise étant régnant en maître, et le mot d'ordre étant Guizot disant « enrichissez-vous, enrichissez-vous ». Ça ressemble d'ailleurs un tout petit peu. Hein. Non,
enfin, à notre époque
un peu, non. C'était une période d'ennui mortel et d'injustice aussi sociale considérable, mais surtout la forme politique ne correspondait plus aux nécessités des affaires, donc une révolution bourgeoise en février 48 s'est débarrassée du roi pour essayer de construire une république ou au moins une royauté constitutionnelle plus démocratique, plus en phase avec les affaires, quoi. Février 48, c'est une révolution heureuse. Il n'y a pas beaucoup de morts. Tout le monde, on défait le roi, on instaure la république. Bon. Sauf que, entre-temps, le peuple qui a servi à faire la révolution prend conscience qu'il n'est pas un, mais au moins deux, peut-être trois. Et bien avant que Marx n'en fasse la théorie, une fraction du peuple se dresse contre l'autre parce que c'est pas les mêmes républiques qu'ils veulent, l'un et l'autre. Une république sociale d'un côté, une république bourgeoise de l'autre. Et après février 48, qui est la révolution heureuse, a lieu juin 48, l'opposition du prolétariat est de la petite bourgeoisie. Et là, c'est un bain de sang. C'est vraiment un bain de sang. 100 000 morts, probablement.
Frédéric Moreau, le personnage principal de l'éducation sentimentale qui traverse cette période-là, semble ne pas comprendre grand-chose à la dimension historique qu'il est en train de vivre. Et vous parlez des subtilités, des distinctions au sein du peuple lui-même. Lui parle du peuple. C'est le peuple qu'il trouve sublime, dit-il, comme s'il se prenait pour un personnage de roman que ça ne concerne pas grand. Ça ne concerne pas.
Il dit ce que pense l'époque. Ce que nous dit le roman, et que pensera Marx, mais 20 ans plus tard, est une idée extra-lucide de l'histoire. C'est-à-dire, le fait que le roman mette en évidence ces fractures sociales démontre que Flaubert n'est pas seulement un romancier, mais un historien, et un penseur, et un philosophe. Mais regardez quand même le personnage de Frédéric. Peut-être qu'il il voit les choses de façon un peu flou. D'ailleurs, lui, c'est un petit bourgeois et ses valeurs sont claires. Faut vivre aussi bien qu'on peut. Faut essayer d'être artiste. Voilà. Mais néanmoins, il y a un copain de Frédéric qui est le symbole même de cette question populaire, de cette question du peuple et de la définition sociale du peuple. C'est Dussardier. Or, Dussardier est le personnage le plus proche de Frédéric. C'est le seul avec qui il se fâche pas. C'est le seul avec... Dès qu'il apprend que Dussardier a été blessé...
Et c'est celui qui se bat, Dussardier, en plus.
C'est celui qui se bat et qui se trompe, d'une certaine façon, qui tout d'un coup découvre qu'il s'est battu du mauvais côté. Mais dès que Dussardier est blessé, là, en juin 48, il croyait que la République, c'était la République autoritaire, et s'est rendu compte qu'il a dû finir par se battre contre ses frères, quoi. Quand Dussardier est blessé, Frédéric, qui est en train de vivre un moment d'idylle à Fontainebleau, se précipite à Paris et il laisse tomber Rosanette, ses amours, la campagne, le petit Éden dans lequel il se trouvait, pour aller porter secours à Dussardier. Alors ça, je crois que c'est quand même très significatif, vous voyez. C'est pas un héros, mais s'il y a un gars qui est héroïque dans l'histoire, c'est vraiment Dussardier, même s'il se trompe, et c'est près de lui... Et de lui seul que notre anti-héros se précipite.
C'est-à-dire que Frédéric Moreau, anti-héros, à défaut d'être lui-même un héros, saurait les reconnaître.
Oui.
Est ami avec
le
héros.
Instinctivement proche, très proche, mais en même temps il les rate, c'est ça. Il y a un autre personnage qui est une sorte de, là, sur le mode féminin, d'héroïne absolue, qui n'est entachée par rien dans l'histoire. À défaut d'une galerie de personnages, ils sentent tous mauvais, comme on le dit dans le roman, hein. Sauf deux, Dussardier et la petite Roque.
Louise Roque, qu'il voulait épouser, alors la provinciale.
La provinciale, qui elle, est un personnage absolument formidable, qui a aucun élément négatif, quoi, qui est du côté de la nature.
Mais il s'en rend compte trop tard, et alors qu'il veut retourner pour l'épouser, il se rend compte que Deslauriers, son meilleur ami,
est
à son bras.
Mais ça dit, Deslauriers, elle va pas le garder longtemps. Elle va partir avec un chanteur italien, finalement.
Mais il y a quand même cette dimension, héros ou anti-héros, Frédéric Moreau, que je vois, vous tenez à sauver quand même, Pierre-Marc de Biasi, arrive toujours trop tard, il est toujours à côté, il est spectateur au lieu d'être acteur, il rate les événements, il aime les mauvaises personnes et jamais au bon moment, et le roman s'achève.
Moi, je crois que le côté le plus anti-héros de Frédéric, c'est pas tellement ses aspirations. Elles sont un peu bêtes, ses aspirations, souvent, quoi. Il voudrait être... Enfin, les valeurs ne sont pas fausses. Il voudrait être un grand artiste, il voudrait être un grand penseur, il voudrait être un grand écrivain. Il sait pas s'il va être peintre ou écrivain. Bon, il hésite, mais on peut dire c'est des valeurs petites bourgeoises, ok, mais c'est des vraies valeurs quand même. Il se trompe sur la façon d'y arriver, sur ce que c'est en réalité, parce qu'il est un petit peu bête, comme beaucoup des personnages de Flaubert. Mais qui peut dire qu'il n'est pas complètement menacé par la bêtise?
Mais précisément, vous dites ça, vous avez déjà employé cet argument de dire, mais il nous ressemble. Donc au fond, ne soyons pas durs avec lui, mais n'attendons-nous pas de la littérature et des personnages de romans qu'ils soient un peu différents de nous, sinon à quoi sert de lire? Autant s'observer les uns les autres. C'est très étonnant de proposer
de jeter à
un personnage qui nous ressemble.
Tout ce qui s'est écrit depuis Flaubert, quoi. C'est ça le problème, c'est que justement...
Ah mais je dis pas qu'il faut pas le faire.
Qu'est-ce qui se passe en fait avec l'éducation? On a parlé d'histoire, on a parlé de février 48, de juin 48. Flaubert en fait une analyse qui va être très proche de celle que Marx va faire donc 10-20 ans plus tard. Qu'est-ce qu'enregistre le roman? C'est que l'héroïsme au sens ancien n'existe plus. L'héroïsme, c'est les masses. Il faut des centaines de milliers de gens, des millions de gens pour que l'histoire bouge. Il n'y a plus l'héroïsme au sens napoléonien, au sens des rois de France, au sens de la géographie d'autrefois. On est passé dans un autre âge de l'histoire. C'est ça que nous raconte le roman. Et Frédéric Moreau, c'est une des gouttelettes, de ces milliards de gouttelettes qui font que si elles vont dans le même sens, l'histoire bouge. C'est Leibnizien. Hein. Flaubert est un lecteur de Leibniz. Il pense que la puissance, ce qui va être la théorie de la nouvelle histoire, hein, de Bloch, la puissance du long terme est fondamentale. Ce qui s'ajoute et qui va dans le même sens, c'est peut-être une nuée, c'est peut-être des gouttelettes de rosée, mais ça finit par faire une vague, un tsunami qui emporte tout. Et c'est ça l'histoire, c'est ce que comprend Flaubert, c'est ce qu'il cherche à nous faire comprendre, c'est que dans la destinée individuelle de gens insignifiants, quelque chose peut produire un phénomène de type catastrophe. Quoi. Voilà. Mais c'est une question de calcul de mathématiques, véritablement. Donc la vie de Frédéric, bon lui il est un petit peu en marge, c'est vrai, mais il nous sert de point de vue. C'est ça aussi. On est derrière son épaule. Et on voit, pas exactement à travers lui, puisqu'on le voit voir, mais c'est quand même le point de vue qu'on nous offre.
Alors adoptons-le. Restons derrière son épaule, puisque vous dites on voit non pas tellement à travers ses yeux, mais juste derrière, et assistons avec lui à la première rencontre avec Madame Arnoux.
Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc, toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules, et quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille avec du ruban rose qui palpitait au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs contournant la pointe de ses grands sourcils descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire tachetée de petits pois se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpaient sur le fond de l'air bleu. Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre. Puis, il se planta tout près de son ombrelle posée contre le banc et il affectait d'observer une chaloupe sur la rivière.
La première gnossienne de Satie pour la première rencontre entre Frédéric Moreau et Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, dont nous parlons aujourd'hui pour le troisième temps de notre série sur les héros et l'héroïsme. Frédéric Moreau est-il un anti-héros? Pierre-Marc de Biasi, qui est avec moi en studio, ne semble pas souscrire à cette hypothèse de l'anti-héros. En revanche, je vous ai vu sourire en écoutant la fin de ce texte que vous devez connaître par cœur et ça fonctionne à chaque fois.
Oui, par cœur, mais quel texte extraordinaire, vraiment. C'est-à-dire, je ne crois pas que ce soit faux de dire que Frédéric Moreau est un anti-héros. Ce que je pense, c'est qu'il émerge comme héros ou comme anti-héros à un moment où la dialectique de l'un et de l'autre devient décisive. C'est-à-dire où on ne peut plus penser le héros autrement qu'en termes, au moins en partie, d'anti-héros.
Donc c'est la notion même de personnage romanesque qui change.
Oui. Et là, c'est tout à fait clair. On a une scène de coup de foudre. Hein, une scène véritablement qui ressemble à la séduction érotique immédiate et qui va marquer toute l'histoire, véritablement toute la vie de Frédéric. Tout son destin et tout le roman. On retrouve dans cette scène très belle où le destin passe. Hein, vous avez remarqué, elle lève les yeux au moment où il passe et lui, il fléchit involontairement les épaules comme si un poids énorme lui tombait dessus. Quoi. Et oui, Mais en même temps, ce destin, cet événement qui est l'irruption de la transcendance, en fait, pour lui, amoureuse, dans sa vie, il a un rapport à l'immédiateté de cet événement, qui est un rapport un peu de roublardise, comme je disais oui. en commençant. Hein, il se met un peu plus loin et il commence à regarder en coulisses. Puis ensuite, il cherche à la détailler, bien sûr. Il veut la regarder son corps et en savoir plus. Mais il fait plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre. Hein. Donc on est à la fois en face de ce qu'il y a peut-être de plus authentique dans la vie humaine, c'est-à-dire la rencontre avec l'amour au sens foudroyant du terme, et en même temps, au même moment, cette expérience, elle n'exclut pas une espèce de manœuvre, de calcul, de comptabilité avec ses moyens, de technique de chasseur, quoi. Voilà.
Mais est-ce que c'est pas la manœuvre de l'écrivain qui, au moment où il vit un coup de foudre, essaye aussi de le noter pour s'en souvenir et qui regarde de manière intéressée, disons littérairement?
Bien sûr, pour Flaubert, de toute façon, l'amour, comme toutes les belles choses de la vie, c'est fait pour faire un beau livre. Hein. C'est au-dessus de l'idéal de vie, il y a l'idéal de l'art. Il faut avoir vécu de l'idéal dans sa vie pour pouvoir écrire. C'est ça aussi. C'est parce qu'on peut en faire la critique et se dire quand même quel cynisme. Bah, oui, sauf que si on ne vit rien, on n'a rien à écrire non plus.
Mais Flaubert cherche à déconstruire des clichés. Alors peut-être oui. Déjà le personnage, vous l'avez dit, de roman, parce que la vision anti-héroïque qu'il véhicule, dans ce roman en tout cas, mais aussi le coup de foudre amoureux. Cette scène est à la fois très touchante et ça pourrait être une parodie du coup de foudre amoureux.
C'est une parodie d'une certaine façon, puisque... la question que Flaubert cherche à résoudre, c'est comment en est-on arrivé à une société brutale, industrielle, qui est en train de détruire toutes les valeurs de l'art, après une période romantique qui avait construit les rêves les plus incandescents. Ben, c'est que ces rêves incandescents étaient fabriqués en grande partie avec une matière qu'on appelle la bêtise, quoi. Et c'est de cette critique à l'acide, là, qu'il est question dans ce roman. D'un bout à l'autre, l'histoire morale de ma génération, c'est l'histoire morale de toutes les illusions mortelles, souvent quand même, parce que ça produit quand même au 6 juin 1948, ça produit l'envoi de la petite Berthe à la fin de Madame Bovary à l'usine, à 12 ans ou 13 ans. Critique sociale va de pair avec critique... idéologique, critique de la place de la blague, de ce qu'il appelle la blague, le stéréotype, l'idée reçue, le préjugé. Quoi.
Qui sont autant de manifestations de la bêtise ambiante, c'est ça pour Flaubert,
ouais.
Qui est omnubilé par la bêtise. C'est
pour lui, il a dit énorme, avec un H même.
Mais c'est vrai, mais pourquoi une telle importance des sentiments dans cette dénonciation? Il le dit, je ne veux pas considérer l'art comme un déversoir à passion, comme un pot de chambre un peu plus propre qu'une simple causerie, qu'une confidence. Non, la poésie ne doit pas être l'écume du cœur, ce n'est ni sérieux, ni bien, que de sentiments, que de tendresse, que de larmes, il n'y aura jamais eu de si braves gens. Dans une lettre à Louise Collet de 1854. Constater la bêtise est une chose, que la marge de l'histoire va peut-être dans le mauvais sens en est une autre, reconsidérer son rôle d'écrivain encore une troisième. Mais où est le problème avec les sentiments? Pourquoi cette volonté d'écrire un livre sur rien? C'est ce qu'il dit, c'est le sujet du livre de l'éducation sentimentale.
Oui, alors là, il y a beaucoup de questions à la fois.
C'est difficile en même temps.
Oui. À vrai dire, ce que rejette Flaubert, c'est le pot de chambre romantique, c'est-à-dire le déversoir des sentiments personnels, individuels à la Musset. Hein. Voilà, je, moi, etc. Voilà. Cette inflation de l'ego, il ne le supporte pas. Voilà. Il va créer une théorie de l'écriture qui est fondée sur ce qu'il appelle l'impersonnalité, qui n'est pas... C'est pas un privatif, c'est-à-dire c'est une façon de rendre à la langue son devoir d'universalité. Je vais pas raconter mes histoires à moi pour les infliger au public. Si dans mon expérience personnelle, dans ma vie sentimentale, il y a eu des choses qui font sens pour les autres, je les prends. Voilà. Mais je vais pas afficher comme mienne une expérience au seul motif que c'était quelque chose que j'ai vécu et qui a été intense pour moi. Il faut que ce soit intense dans la langue. Donc, toutes ces questions reviennent à une seule et même idée. Être impersonnel, c'est se situer un tout petit peu à côté des choses, les observer et essayer de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Voilà. Et ça ne marche que si on l'a vécu, que si on l'a éprouvé. C'est au fond, si vous voulez, pour résumer, on pourrait dire le point de vue de Flaubert, c'est la dialectique d'Apollon et de Dionysos. Il faut avoir fait l'expérience de la vie, de la société, de l'amour, de la cruauté, etc. Il faut l'avoir ressenti en soi-même. Et Flaubert est quelqu'un qui est très, comment dire, qui a un état d'ultra-sensibilité. Pratiquement, il est même à la limite du pathologique de ce côté-là. Il faut l'avoir ressenti, mais si on ne fait que le ressentir, on devient fou, c'est tout. On est saisi d'impossibilité de le communiquer. Il faut donc aussi l'observer. Il faut être Apollon, il faut être loin, détaché, cynique d'une certaine façon, calculateur. C'est celui qui fait le plan du roman. Hein. C'est celui qui est le stratège, quoi. Et qui va recueillir de l'expérience dionysiaque du vécu ce qu'il faut pour fabriquer la fiction, c'est-à-dire cette œuvre d'art externe, pure, qui rendra aux autres la possibilité de le sentir.
Ce que vous dites, c'est que le sentiment est pour lui un obstacle d'abord personnel. C'est parce qu'il ressent trop qu'il doit épurer son écriture des sentiments.
Exactement.
Pour la rendre universelle.
Exactement.
Ce qui est bien différent de la dénonciation du romantisme ambiant.
Bien sûr. Mais en tant qu'il est, pour lui-même, il le ressent au moins comme ça, l'incarnation même du romantisme. Vous savez, il était fou de Byron, enfant. C'était un frénétique, un romantique frénétique. Et tous ses copains aussi. Il raconte dans un texte d'hommage à son ami Bouillet comment son copain avait une dague sous son oreiller, comment il lisait la nuit les dernières pièces de Hugo, etc. C'était des vrais fous de romantisme, oui.
Je t'ai dit que l'éducation avait été un essai. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. Comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air. Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît. Et plus c'est beau. Je crois que l'avenir de l'art est dans ses voies. Je le vois à mesure qu'il grandit, s'éthérisant tant qu'il peut, depuis les pylônes égyptiens jusqu'aux lancettes gothiques et depuis les poèmes de 20 000 vers des Indiens jusqu'aux jets de Byron. La forme, en devenant habile, s'atténue. Elle quitte toute liturgie, toute règle, toute mesure. Elle abandonne l'épique pour le roman, le vers pour la prose. Elle ne se connaît plus d'orthodoxie et est libre comme chaque volonté qui la produit. Cet affranchissement de la matérialité se retrouve en tout, et les gouvernements l'ont suivi, depuis les despotismes orientaux jusqu'au socialisme futur. C'est pour cela qu'il n'y a ni beau, ni vilain sujet, et qu'on pourrait presque établir comme axiome, en s'opposant au point de vue de l'art pur, qu'il n'y en a aucun, le style étant, à lui tout seul, une manière absolue de voir les choses. Le livre sur rien, c'est le sujet du jour sur les chemins de la philosophie sur France Culture, c'est-à-dire l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Nous parlons de Frédéric Moreau, mais aussi de Flaubert lui-même et des autres personnages, on va y venir. Héroïsme, anti-héroïsme, à vous de voir. Et c'est avec Pierre-Marc de Biasi, directeur de recherche au CNRS, que nous discutons de ce livre aujourd'hui. Pierre-Marc de Biasi qui a écrit « Une manière spéciale de vivre », le titre d'un livre consacré à Gustave Flaubert. Cette manière de vivre, si je veux dire, c'est aussi de ça qu'il est question dans la lettre que j'ai lue,
oui,
en 1850. À sa maîtresse, Louise Collet. Bon, le livre sur rien est une expression qui est restée connue. On peut la commenter, si vous le souhaitez.
Oui, commentons-la, parce qu'elle a été un peu l'objet d'interprétations diverses. Par exemple, le Nouveau Roman a voulu en faire l'affirmation d'une sorte de paternité, d'une écriture purement formaliste. C'est pas exactement de ça que parle Flaubert. Et la dimension formaliste existe, bien sûr. Parce qu'au fond, ce que vous avez comme déclaration dans la correspondance là, qui est un texte majeur, c'est l'affirmation de l'art conceptuel, hein, tout simplement. C'est ce qui est en train de s'instituer dans ce lacisme-mort qu'il défend.
Lacisme-mort, oui. Le minimalisme, quoi.
Bah, c'est le minimalisme complet, hein. Moins il y a de matière, plus c'est beau, quand même. On est plus d'un siècle avant les Américains de l'après-guerre. Bon. Ce geste, disons, théorique, il est accompagné, en même temps, d'un vrai respect pour la sensation, pour le corps, pour tout ce qui est de l'ordre du vivant, de la substance. C'est ça qu'il faut pas oublier, que des gens comme Aubrier, par exemple, ou Nathalie Sarraute ont un peu oublié, en faisant du livre sur rien une formule à soi tout seul. Mais si vous lisez bien le texte comme vous l'avez fait, en entier, il s'agit d'une image qui fait de l'œuvre l'équivalent d'une planète. C'est-à-dire qui ne repose sur rien, qui flotte dans l'air.
Qui, comme la Terre, sans être soutenue, voilà, se tient en
exactement
l'air.
Donc c'est une idée de la gravitation, c'est-à-dire que l'œuvre doit être non seulement auto-centrée, hein, comme une planète a son propre magnétisme qui lui permet d'être axée et de tourner sur elle-même, et elle doit être, l'œuvre, comme une planète, c'est-à-dire sphérique, c'est-à-dire maximum de volume sous minimum de surface. Là aussi, on retrouve Leibniz. C'est l'hypothèse que le maximum d'effet artistique doit provenir du minimum de cause en termes de matière. D'où le travail rigoureux d'écriture qui va amener Flaubert dans chacun de ses récits à virer 40% à peu près de la matière narrative.
Parce qu'il écrit 5000 pages, je crois, de manuscrits rien que pour ce texte-là.
5000, oui. Et plus à peu près autant de documentation, de notes, de carnets, etc. Mais le phénomène le plus visible et le plus frappant, si vous voulez, c'est le caractère très contrasté de la rédaction. D'abord, une espèce d'ascension qui développe l'imaginaire du récit au maximum, puis ensuite un travail de restriction, de condensation, qui, je vous dis, élimine 40% de ce qui a été écrit, quoi, pour arriver à une forme aussi condensée que possible, où chaque mot fait signal, quoi. Voilà.
Oui, il y a une espèce, l'écriture, le texte même de Flaubert, il n'y a pas un signe
un
de trop.
Ouais, difficile, hein,
Il y a un rythme particulier. C'est un texte qu'on peut lire à voix haute, ouais, assez facilement, parce qu'il y a une cadence qui s'installe dans la façon de lire les mots à l'oral.
Il l'a écrit comme ça.
Voilà, Flaubert récitait ces textes, les gueulets.
Le gueuloir sert également à raboter, si vous voulez, la phrase, c'est-à-dire à enlever tout ce qui, dans la phrase, pourrait constituer un son faux, parce que pour lui, il n'y a pas de différence entre le vrai et le phonique. Si la phrase a un pli grammatical, une forme de répétition, un heurt musical, c'est que l'idée est fausse. Et de ce point de vue-là, il est très proche des classiques, enfin du XVIe et XVIIe siècle. Mais avec une vigilance qui est véritablement de l'ordre du concept.
Encore un mot sur ce texte avant d'en revenir à notre anti-héros qu'on a laissé sur un champ de bataille. On va les retrouver parce qu'il est spectateur des événements bien, à la fois malgré lui, mais il l'a choisi aussi. Dans la suite du texte que j'ai lu, donc la lettre à Louise Collet du 16 janvier 1852, il revient sur cet affranchissement de la matérialité, donc cette manière d'écrire en épurant au maximum les mots. Il dit cet affranchissement de la matérialité se retrouve en tout. Et les gouvernements l'ont suivi, depuis les despotismes orientaux jusqu'au socialisme futur. Il fait un lien ici entre son esthétique personnelle d'écriture et les gouvernements politiques.
Ouais, mais c'est un lecteur de Hegel aussi, hein. Il pense le logos quand même. Et vous voyez qu'il annonce la victoire du socialisme, hein. Il en est pas d'ailleurs forcément très heureux, mais pour lui, la Troisième Internationale, à coup sûr, vaincra.
Mais quel est le lien entre les deux?
C'est une question un petit peu comme le Marx de Hegelien des manuscrits de 44, de vision de l'histoire dans son plus long cycle, sous la forme d'une sorte de purification, de d'aller vers le la réalisation la plus pure du logos.
Politiquement, c'est assez effrayant, non?
Oui. Ben, c'est pas qu'il trouve ça formidablement gay, hein, mais la révolution bolchevique, il l'annonce, oui.
Ce qu'il décrit, c'est celle de 1848. On va retrouver Frédéric Moreau qui est comme une espèce de spectateur de ce vent de révolution qui souffle sur le Palais Royal. Écoutez la description qui est faite de ce personnage. On se demande s'il prend part aux événements ou s'il est aux côtés de l'écrivain qui les raconte.
Les tambours battaient la charge. Des cris aigus, des hurrahs de triomphe s'élevaient. Un remous continuel faisait osciller la multitude. Frédéric, pris entre deux masses profondes, ne bougeait pas, fasciné d'ailleurs, et s'amusant extrêmement. Les blessés qui tombaient, les morts, étendus, n'avaient pas l'air de vrais blessés, de vrais morts. Il lui semblait assister à un spectacle. Au milieu de la houle, par-dessus des têtes, on aperçut un vieillard en habit noir sur un cheval blanc, à selle de velours. D'une main, il tenait un rameau vert, de l'autre, un papier, et il les secouait avec obstination. Enfin, désespérant de se faire entendre, il se retira. Le premier étage du Palais Royal s'était peuplé de gardes nationaux. De toutes les fenêtres de la place, on tirait. Les balles sifflaient. L'eau de la fontaine crevée se mêlait avec le sang, faisait des flaques par terre. On glissait dans la boue sur des vêtements, des shakos, des armes. Frédéric sentit sous son pied quelque chose de mou. C'était la main d'un sergent en capote grise, couché la face dans le ruisseau. Les bandes nouvelles de peuple arrivaient toujours, poussant les combattants sur le poste. La fusillade devenait plus pressée, les marchands de vin étaient ouverts. On allait de temps à autre y fumer une pipe, boire une chope, puis on retournait se battre. Un chien perdu hurlait, cela faisait rire. Frédéric fut ébranlé par le choc d'un homme qui, une balle dans les reins, tomba sur son épaule en râlant. À ce coup, dirigé peut-être contre lui, il se sentit furieux. Il se jetait en avant quand un garde national l'arrêta. « C'est inutile! Le roi vient de partir! Ah! Si vous ne me croyez pas, allez-y voir !» Une pareille assertion calma Frédéric.
C'est la comédienne Nicole Garcia qui prête sa voix à Gustave Flaubert le temps de cette émission. Pierre-Marc de Biasi, Frédéric Moreau est comme une balle que se renvoient les différents pions qui jouent la partie de la Révolution.
Oui, enfin en tout cas, il est et comme il Flaubert, beaucoup. Il assiste à la Révolution de février 48, là on est en février, c'est-à-dire la Révolution heureuse, celle qui va être victorieuse, qui est sanglante quand même, mais qui est violente, mais Flaubert a assisté hein, à tous ces événements. Il décrit le château d'eau. Il était au château d'eau. C'est-à-dire que Frédéric est dans la position où il se trouvait. Et Flaubert y était pas pour manifester ni pour se battre, mais pour prendre des notes avec son copain Maxime Ducamp. En fait, ce qui me frappe dans ce récit de bataille, c'est sa véracité. Je sais pas si ça m'est arrivé déjà d'être au milieu des balles qui sifflent, mais c'est ça qu'on ressent. C'est un jeu. On n'y croit pas du tout. Les gens qui meurent, on n'y croit pas. C'est ce que Flaubert nous dit, c'est un truc qu'il a éprouvé, c'est-à-dire que dans l'immédiateté de l'expérience, on est dans l'illusion complètement, complètement. Ce qu'il y a de nouveau dans ce texte, c'est ça précisément. C'est qu'il n'y a pas le recul faux, factice de l'après-coup. On est dans une saisie du moment. Et il peut le faire parce que il en a fait l'expérience directe. Le chien qui se met à hurler tout d'un coup et ça fait rire les gens au moment même où le type va recevoir une balle dans les reins et s'effondrer. Et puis la main molle sur laquelle il marche. Toutes ces choses qui, on sent bien que ça appartient déjà à un roman qui est le nôtre, quoi, un roman contemporain. C'est plus tout à fait un roman du 19e siècle. Et ben, ces choses-là nous disent, l'état de l'expérience, une sorte de phénoménologie de l'histoire, quoi. À un moment où elle n'est pas encore jugée, où elle est en train d'avoir lieu. On n'est pas loin de ce côté perdu de Waterloo, hein, chez Stendhal, où on ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais sauf que là, si, on sait que c'est une révolution qui est en train d'avoir lieu, mais on est dans une sorte d'irréalisme total par rapport à l'expérience. C'est comme ça.
En quoi, selon vous, ce texte est-il contemporain? Vous dites que ça pourrait être écrit aujourd'hui.
Oui. Ben, je ne sais pas qui aurait écrit avant Flaubert. On allait de temps en temps à autre, y fumer une pipe, boire une chope, puis on retournait se battre. Un chien perdu hurlait. Cela faisait rire. Frédéric fut ébranlé par le choc d'un homme qui, une balle dans les reins, tomba sur son épaule. On n'est pas loin, si vous voulez, d'une sorte de parataxe d'événements à la Camus. Hein. Il y a des choses qui se passent, il y a des sensations qui passent. Les réactions des gens paraissent anormales, ça fait rire. On a l'impression d'être dans un jeu. C'est le réel, c'est même l'histoire.
C'est près du Houellebecq même.
Ouais. Mais oui. Mais toute notre écriture romanesque prend sa source ici. C'est comme ça. Or, ce qui se raconte, c'est effectivement un moment qui sera ensuite expliqué, commenté, narrativisé par l'histoire en termes de logique. Mais l'expérience de l'histoire en temps réel, c'est ça. Voilà. Et je pense qu'il il dit les choses avec honnêteté.
Et c'est ça qui fait qu'il nous parle autant aujourd'hui, enfin qu'il pourrait faire partie de notre société aujourd'hui.
Ouais,
c'est l'honnêteté.
Je crois. L'honnêteté par rapport au rapport entre l'expérience et le style. Ouais. C'est une question de relation entre ce que peut la langue et ce que c'est l'expérience.
C'est Flaubert le héros de l'histoire dans ce cas.
Bien sûr que le vrai héros de tout roman où il y a des héros, c'est l'écrivain, ou plutôt derrière l'écrivain, la langue, qui profite de l'écrivain pour advenir sous une forme nouvelle.
La fin de l'éducation sentimentale est une fin, selon l'expression de Flaubert, en queue de rat. Tous savent, dit-il, leur position réciproque et n'osent se la dire, le sentiment finit de soi-même, on se sépare, fin, on se revoit de temps à autre, puis on meurt. C'est la volonté de ne pas proposer une fin close, une fin qui soit comme l'achèvement d'un déroulement qui d'ailleurs n'a pas été très linéaire. Et cette fin laisse un sentiment très étrange au lecteur qui ne sait pas en effet si fin il y a vraiment. On laisse les personnages, on reprend le cours de notre vie et il y a quelque chose de pas fini en fait qui nous accompagne. Pour le coup, jusqu'au, sans doute toute la vie.
Enfin, il y a quand même une chose intéressante qui n'est pas dans le roman, qui est la complexité du rapport entre ce roman et l'histoire réelle. Ça nous raconte 48, ça a été écrit entre 65 et 64 et 69. Donc, à la fin du roman, on est au moment même où Flaubert vient de finir d'écrire. Sauf qu'il y a eu la guerre de 70. Et donc, le roman est passé totalement inaperçu. Mais pas seulement ça, il y a eu la fin de l'Empire. Il y a eu la fin de ce que Flaubert fait passer à la trappe dans le roman en n'en parlant pas du tout. Hein, puisqu'il y a, vous savez, ce fameux trou de 17 ans, quand même, entre le moment où Dussardier est tué par l'ancien révolutionnaire syndical devenu flic de l'Empire, enfin du futur Empire, et puis tout l'Empire. Donc, dans ce trou de 17 ans, dont le roman ne parle pas, ce qui est une façon de le faire passer dans les poubelles de l'histoire, hein, véritablement, il advient, au fond, une sorte de rapport au récit qui change tout. Quoi. Or, Flaubert a imaginé, 2 mois peut-être, ou 3 mois après la fin de l'Empire, quand son roman venait de sortir, une autre fin. Et il s'est dit, au fond, mince, quoi. Il a imaginé une scène, on s'est passé cut, hein, comme dans un film, de la fin de ce qui était écrit là, à une scène où on aurait vu les soldats de Napoléon III en déroute, dans une calèche Napoléon III derrière la vitre, un soldat qui passe et qui crache sur la vitre. Fin sur le crachat. Ça veut dire que... cette fin en queue de rat, le souffle de l'histoire passe à travers cette fin en queue de rat. Hein, c'est ça. D'un bout à l'autre de ce roman, c'est ce qui en fait probablement un très grand roman. Hein, c'est que les destins les plus insignifiants de l'histoire, ils sont néanmoins confrontés au grand souffle de l'histoire, hein, avec un grand H. Donc la fin qui est terrifiante, hein, la fin quand même de dans laquelle chacun peut lire sa propre fin. Je veux dire, il a traversé tout ça et il n'est pas mort et il continue à vivre et son copain des Lauriers aussi. Ils ont vieilli, mais ça va, c'est pas trop grave. Bah, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens, hein, tous ceux qui ne sont pas passés au massacre de la Révolution, quoi. Et on a bien le droit de survivre. Et, d'accord, c'est pas un héros, mais de quoi peut-on l'accuser, Frédéric, au tribunal de l'histoire? De quoi?
De ne pas être l'auteur de sa propre vie.
Mais il l'a été. Il l'a été. Il a donné de l'argent pour qu'un... beaucoup de son argent pour qu'un journal progressiste existe. Il a aidé tous ses amis. Il n'a pas été écrivain. Il n'a pas été peintre.
Qu'a-t-il entrepris qu'il a réussi à mener jusqu'à son terme? Qu'a-t-il entrepris même sentimentalement, sans regret, sans remords et au bon moment? Qu'a-t-il accompli?
Ça non, il a raté ça, oui. Oui.
Peut-être que c'est ça qui le rend réaliste et qui nous fait avoir pour lui une infinie tendresse.
Oui, hein. En tout cas, moi j'arrive pas, si vous voulez, pour ce personnage de fiction, de plume, à avoir ni mépris, ni hostilité, ni même indifférence, parce qu'il me touche, véritablement.
C'est bien pour ça que je vous ai invité pour en parler aujourd'hui, Pierre-Marc de Biasi. On va se quitter avec un dernier texte, si vous le voulez bien. Un texte bouleversant avec toute l'affection qu'on peut porter à ce personnage. L'honnêteté dont il fait preuve à l'égard de ses propres sentiments a quelque chose d'effroyable. C'est la dernière entrevue avec Madame Arnoux. Ils se sont aimés, cherchés pendant tout le livre. Enfin, elle vient s'offrir à lui. Et ce qu'il constate, en même temps qu'un désir intact pour elle, c'est une forme de dégoût, voire de rejet, devant ce qui est devenu une vieille femme. Écoutez ce texte.
Frédéric soupçonna Madame Arnoux d'être venue pour s'offrir. Il était repris par une convoitise plus forte que jamais, furieuse, enragée. Cependant, il sentait quelque chose d'inexprimable, une répulsion, et comme l'effroi d'un inceste. Une autre crainte l'arrêta, celle d'en avoir des goûts plus tard. D'ailleurs, quel embarras ce serait! Et tout à la fois par prudence et pour ne pas dégrader son idéal, il tourna sur ses talons et se mit à faire une cigarette. Elle le contemplait tout émerveillée. Comme vous êtes délicat. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. 11 heures sonnèrent. Déjà, dit-elle, au quart je m'en irai. Elle se rassit, mais elle observait la pendule et il continua à marcher en fumant. Tous les deux ne trouvaient plus rien à se dire. Il y a un moment dans les séparations où la personne aimée n'est déjà plus avec nous. Enfin, l'aiguille ayant dépassé les 25 minutes, elle prit son chapeau par les brides, lentement. Adieu, mon ami, mon cher ami. Je ne vous reverrai jamais. C'était ma dernière démarche de femme. Mon âme ne vous quittera pas. Que toutes les bénédictions du ciel soient sur vous. Et elle le baisa au front comme une mère. Mais elle parut chercher quelque chose et lui demanda des ciseaux. Elle défit son peigne, tous ses cheveux blancs tombèrent. Elle s'en coupa brutalement, à la racine, une longue mèche. Gardez-les. Adieu. Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Madame Arnoux, sur le trottoir, fit signe d'avancer à un fiacre qui passait. Elle monta dedans, la voiture disparut, et ce fut tout.
Comment fait-on pour se remettre d'une telle page, d'un tel adieu, Pierre-Marc de Biasi?
Madame Arnoux, c'est la vie, c'est tout. C'est une scène terrible, mais c'est une scène de façon pure. Hein. Il ne veut pas dégrader son idéal. Elle a devenu quelque chose qui pourrait être sa mère. Il s'agit donc bien d'une sorte d'inceste s'ils s'offraient l'un à l'autre. Et ce qui se conserve, c'est la temporalité de tout ce qu'on vient de lire. C'est-à-dire, au fond, l'échec devient l'origine de la valeur. à nous de relire tout ce récit.
Eh bien, invitons les auditeurs à le faire. Merci à vous, Pierre-Marc de Biassi, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Et je renvoie les auditeurs à votre livre, Gustave Flaubert, Une manière spéciale de vivre, publié aux éditions Grasset et disponible aux éditions Poche.
Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser, nous réveiller tous les matins, si surpris de nous trouver si bien dans le même lit, et ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit nos sentiments nous ont liés, bien malgré nous, sans y penser, à tout jamais. Les sentiments plus forts et plus violents que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments qu'à l'avant nous n'aurions jamais cru.
Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, mon amour. C'est Philippe Catherine qui le chante sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie et son journal de la philo.
Je me promets de m'adorer.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Bon, j'espère que vous ne ferez pas une chronique sur rien. Ou alors bon courage.
Non, pas sur rien.
À la suite du livre sur rien.
Non, pas sur rien, mais je vais quand même parler d'un sujet inattendu en philosophie. Oui, je vais vous parler de cheveux. Alors, pas pour n'importe quelle raison, mais parce que l'exposition « Cheveux chéris, frivolité et trophées » qui a été présentée au musée du Quai Branly en 2012-2013 s'exporte en ce moment dans le Finistère. D'où l'idée donc de vous parler de cheveux. Tout part donc pour moi de la nouvelle édition de cette exposition, mais surtout d'une question. Et en philosophie, on en dit quoi du cheveu ? Eh bien, je dois dire, pas grand-chose. Alors, deux choses. Soit je suis passée à côté d'un ensemble de références, et là, je fais appel à vous, chers auditeurs, chères auditrices, à vous, Adèle aussi. Mmh. Peut-être avez-vous en tête des philosophes qui parlent cheveux. Soit il y a vraiment peu de choses, et la plupart des penseurs ont suivi la thèse de Socrate dans le Parménide, à savoir, poser une idée, un concept du cheveu, eh bien, ce serait absurde.
Cheveux dans le vent, et tout ruisselant de pluie, chérie. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.
Une mèche de cheveux qu'elle m'avait donné, une mèche des cheveux qu'un jour j'ai caressé, une mèche de cheveux.
Cheveux dans le vent, cheveux avec des fleurs ou cheveux en mèche. Le cheveu si peu présent dans l'histoire philosophique n'a pas été boudé par la chanson, et il faut ajouter ni par le cinéma ni par la littérature. Le salon de coiffure, ses habitués et ses professionnels sont des lieux et figures privilégiées du récit, tout comme l'inventivité et l'imaginaire qui peut se déployer à travers une chevelure. On citera Dans le désordre, Baudelaire, The Barbershop, Air ou les coiffures de Marie-Antoinette dans le film de Sofia Coppola. J'imagine que vous avez plein d'autres idées en tête. Faut-il alors s'en tenir à ces représentations de cheveux et renoncer à se faire une idée du cheveu comme Socrate ? Ou faut-il faire l'hypothèse que parce qu'il y a autant d'images du cheveu, c'est l'occasion de se demander ce qui unit toutes ces représentations et dans quel sens ? Absurde, comme dirait Socrate, mais présent, pourquoi donc le cheveu ? De quoi est-il le signe ?
Je vous demande de vous faire couper les cheveux. Je ne veux pas de ça, ici. C'est un ordre, vous avez compris ? Un ordre. Allez vous faire couper les cheveux. Mais je veux vous entendre dire oui.
Qu'est-ce que vous pouvez en avoir à foutre de vos cheveux longs ? C'est la mode, ça vous passera.
Tu comprends rien. C'est pas une question de mode. Vous allez voir ce qui va vous faire forger.
Faire forger.
Faire forger. Allez les morts, faire forger. Allez, allez, allez.
Autre exemple cinématographique du cheveu, La coupe à 10 francs, c'est un film de Philippe Condroyer de 1974, et on y entend que les cheveux n'y sont pas seulement cosmétiques, un ornement, une parure, une représentation, mais au contraire, ils sont une présence à part entière. Ils incarnent par leur longueur une idéologie, un âge, une époque, l'état d'esprit d'un individu, sa place sociale, son rapport au corps et à la séduction aussi. Le cheveu n'est donc pas seulement multiple, il dit à lui seul beaucoup, et on peut penser à tout ce que l'on peut aussi lui faire dire en l'analysant. Repérer les substances prises, les dopants, les stupéfiants, ou les carences, ou même déterminer une filiation, ou même quand on supprime le cheveu, marquer une faute ou traiter une maladie. Le cheveu est ainsi toujours un signe, même quand il manque, il dit encore quelque chose, et même encore quand il dure, indépendamment, séparé de son propriétaire, il dit quelque chose. Le paradoxe du cheveu, c'est donc celui-ci, sa présence même absente, même absurde et continue, résistante, persistante.
Elle me rate pas, hein. Me rate pas. Sur la tête de ma mère, j'ai besoin de niquer, Vince.
Bon, hey,
me rate pas.
Je m'appelle pas Paul Bocuse, hein. Je fais ce que je peux, quoi. Vas-y, vas-y.
Bocuse ?
Ouais, vas-y, pose ton cul là.
Et doucement, 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 doucement. Ils ont pas d'avoir des calibres aussi gros. C'est pas ce qu'elle t'a fait là.
Regarde, je te jure, sur la tête de ma mère, ça va.
Quoi sur la tête de ta mère, quoi? Pourquoi tu jures?
Je jure parce que je te dis, y'a rien.
Et voilà. Là, il fait froid là, pourquoi il fait froid là?
Mais parce qu'il fait froid, c'est rien ça, pourquoi? C'est parce qu'il fait froid ici, c'est tout.
Quoi, voilà. Il fait froid ici?
Et voilà, ça va. Écoute-moi, sans déconner, je te dis, moi, je vais égaliser et ça va, ça c'est rien.
Y'a Rachida, arrête! Vas-y, faut voir, fais-moi voir. Vas-y, fais-moi voir.
Sans déconner, la confiance, hein, voilà. Tu vois, tu
quoi, t'as rien fait là, fais voir.
Vas-y, tu vois pas, tu t'aimes pas.
Mais j'ai rien vu là.
Mais fais-moi confiance.
Mais quoi, tu fais pas confiance,
qu'est-ce
quoi?
Qu'est-ce qu'il a? Il est bon le trou.
Mais pourquoi
c'est
il
pas fait un trou d'abord?
Pourquoi il fait froid là?
C'est rien, je te dis. Tu me fais pas confiance, t'es relou, sans les. Moi, je te coupe pas ta cheveux, hein.
Cet extrait de La haine et d'une coiffure ratée révèle tout l'enjeu philosophique du cheveu. C'est l'absurde le plus nécessaire du corps qui en émane mais lui survit. En témoigne donc cette exposition Cheveux chéris, dont part toute cette réflexion et dont l'idée défendue est celle d'une chevelure trophée qui reste d'un individu même après sa mort. Et puis il y a aussi le Parménide qui finit par dire à ce Socrate trop jeune selon lui qu'un jour il n'aura plus de mépris pour cette chose bien réelle du monde sensible, mais plus que ça. Et enfin, j'ai pensé quand même à un philosophe, c'est François Dagonier, qui dans Corps réfléchi voit dans ses scories des vestiges riches permettant de connaître l'univers, non pas des moins-êtres, mais des plus-êtres.
C'est fascinant parce que je cherche depuis le début en vous écoutant des références aux cheveux dans la philosophie, je n'en trouve pas.
Mais je lance Blasi, vous avez une idée, vous
Non.
Non, hein, c'est ouais, ça. Hein. Bah, la belle est lancée, vous nous direz les réponses, Géraldine. Et en attendant, on peut aller voir l'exposition.
Voilà, à l'abbaye de Daoula, c'est dans le Finistère. C'est jusqu'au 6 janvier 2019. Et puis, je lance aussi un appel aux éditions Odile Jacob, qui ont publié Corps réfléchi de François Dagonier, mais c'est en rupture de stock.
Bon, bah, deux appels lancés. Un troisième.
Mais on va republier des textes de Dagonier à CNRS Éditions.
Ouais. Eh bien voilà, que de bonnes nouvelles et que de bonnes questions. Merci à tous les deux. Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Alexandre Dang qui était à la prise de son aujourd'hui, Nicole Garcia à la lecture des textes avec Georges Claes également pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur les héros, sur l'héroïsme. On parlera du surhomme nietzschéen en compagnie de Céline Denat. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter à l'heure et dans le lieu de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.